Dimanche dernier, nous avons commencé une méditation que nous allons prolonger pendant plusieurs dimanches sur Abraham et la signification d'Abraham, à la fois pour nous, pour nos vies, pour l'histoire également du salut de Dieu. Et dimanche dernier, nous avons vu le contexte dans lequel Dieu a appelé Abraham. Et je vous invite à relire le texte de l'appel d'Abraham et nous allons nous intéresser d'un peu plus près à la façon dont Dieu agit et à ce qu'il promet à Abraham. Donc, Genèse chapitre 12, nous lisons les 5 premiers versets. Le Seigneur dit à Abraham, « Va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père vers le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand. Deviens donc une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, je maudirai celui qui te maudira. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » Abraham partit, comme l'Éternel le lui avait dit, et Lot partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Haran. Il prit sa femme Sarai et son neveu Lot avec tous les biens qu'ils possédaient et le personnel qu'ils avaient acquis à Haran. Ils sortirent pour se rendre dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Jusqu'ici, notre lecture. Le 21 juillet 1969, certains d'entre nous s'en souviennent peut-être, des millions de téléspectateurs et d'auditeurs radio suivent une forme blanche qui descend un à un les échelons de sortie d'un drôle d'engin métallique à quatre pattes posé sur le sol. C'est le premier rendez-vous planétaire télévisé. L'image n'est pas très nette, en noir et blanc encore, à cette époque-là, en 69. Mais partout où on reçoit cette image, quel que soit le pays, chacun retient son souffle. L'homme descend un échelon, puis un autre. Juste avant le dernier échelon, un temps d'arrêt. Et l'on entend une voix venue de loin, de très loin, et qui dit « C'est un petit pas pour un homme, mais un bond de géant pour l'humanité. » Dernier pas, une légère poussière s'élève du sol. Le premier homme vient de poser son pied sur la Lune. On dit que tous ceux qui ont assisté à cet événement se souviennent de l'endroit où ils étaient ce jour-là, cette heure-là. En ce qui me concerne, j'avais 13 ans. J'ai pu assister à l'événement grâce à une télévision qu'un particulier avait placée dans la devanture de son magasin. C'était tout ce qu'on avait comme moyen d'accès à la télévision. Nous croyons en effet que c'était un grand pas pour l'humanité. Et c'est vrai du point de vue scientifique et technologique. Pour le reste, il faut bien dire que la vie a continué à peu près comme avant. Peu de gens ont été témoins des pas d'Abraham lorsqu'il a quitté son pays, lorsqu'il a quitté sa famille, lorsqu'il a répondu ainsi à l'appel que Dieu lui avait adressé. Ces pas ont été une marche solitaire vers l'inconnu, la marche d'un homme et de son clan. Mais assurément, ces pas ont représenté un bond de géant pour le bien de l'humanité. Car il y a au travers de ces pas d'Abraham, de l'obéissance d'Abraham et de l'action de Dieu, une bénédiction pour tous les peuples de la terre. C'est le projet de Dieu qui s'initie tout à nouveau, un pas de géant, oui, pour l'humanité, pour son salut. Dimanche dernier, nous avons considéré l'appel d'Abraham que nous avons situé dans son contexte. Cet appel a été précédé d'une révélation du Dieu unique, un homme qui vivait au milieu de croyances religieuses vraiment idolâtres. Ça a été l'appel d'un Dieu qui met en marche, d'un Dieu qui dit « va ». Et aujourd'hui encore, dans bien des domaines, ce Dieu unique nous dit « va », nous met en mouvement par les différentes injonctions qu'il nous donne dans sa parole, par les encouragements, par les perspectives qu'il nous adresse. Mais ce « va » adressé à Abraham a une portée plus lointaine qu'Abraham, tout en l'engageant lui-même pleinement. C'est un tout nouveau projet de Dieu pour l'humanité qui se met en route avec ce pas d'obéissance d'Abraham. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi, dit le Seigneur à Abraham. Et nous voulons nous attacher d'un peu plus près au contenu même de l'appel d'Abraham, à la promesse et au projet que dessine cet appel. Toutes les nations de la terre, toutes les familles de la terre seront bénies en toi, dit le Seigneur à Abraham. Dans le récit de la Genèse, la dernière fois où il a été question de tous les peuples de la terre, dans une perspective large et globale, c'était pour un projet tout différent que celui auquel nous assistons avec Abraham. Tous les peuples de la terre s'étaient unis, nous dit le texte de la Genèse. Et unis pourquoi ? Pour se construire une ville avec une tour dont le sommet montait jusqu'au ciel. C'est le fameux épisode de la tour de Babel qui est rapporté au chapitre qui précède, le chapitre 11. Babel, c'est un projet. Babel, c'est la cité des hommes, la cité créée par les hommes et pour les hommes. Tout le savoir-faire humain, toute la technique humaine, toutes les ressources humaines rassemblées en un même lieu pour un projet permettant à l'humanité de s'affirmer elle-même et de s'assurer sa propre puissance et sa propre sécurité. « Allons, disent les hommes, bâtissons-nous une ville et une tour dont le sommet touche au ciel et faisons-nous un nom pour que nous ne soyons pas disséminés à la surface de toute la terre. » Se faire un nom soi-même, assurer sa sécurité soi-même, se diriger et se déterminer soi-même et monter soi-même jusqu'au ciel. C'est le signe mille fois renouvelé depuis de l'autonomie humaine. En Dieu, nous avons la vie, le mouvement et l'être, mais nous cherchons notre identité, notre force et notre grandeur indépendamment de lui. Tout sauf lui, faisons-nous un nom, disent les gens de Babel. Et c'est vraiment le projet de l'humanité si souvent. Le Seigneur limitera cette volonté de puissance et d'affirmation, la diversité des langues et des cultures, l'incapacité des hommes à s'entendre et à se comprendre feront partie des moyens que Dieu emploie pour limiter ce projet de l'homme et de son affirmation propre. Aujourd'hui encore, notre humanité est morcelée, divisée, incapable de s'entendre véritablement. Elle ne parvient pas à réaliser son unité, même si elle multiplie les tentatives et reconstruit sans cesse de nouvelles Babel. Avec Abraham, c'est un tout autre projet que ce projet-là pour l'humanité entière. L'horizon, nous l'avons dit, est aussi celui de toutes les familles de la terre. Mais le contraste pour y parvenir est total. À Babel, ce sont les hommes qui se disent entre eux « allons ». Avec Abraham, c'est Dieu qui prend l'initiative et qui dit à un homme « va ». À Babel, les hommes se parlent en circuit fermé « allons, bâtissons, faisons-nous un nom ». Avec Abraham, Dieu dit « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand. » On est dans le dialogue, on est dans Dieu qui agit en faveur de l'homme. Avec Abel, on compte sur la puissance humaine déjà existante, mettons en œuvre tous nos moyens. Avec Abraham, c'est un départ à partir de rien, un homme seul que Dieu prend là où il est, que Dieu accompagne, que Dieu fait entrer dans son projet. À Babel, on cherche à s'installer pour conforter sa puissance. Avec Abraham, on est prêt à se mettre en marche pour découvrir et recevoir tout de Dieu. Deux projets donc et un contraste total entre les deux. Et ce contraste, me semble-t-il, est presque une constante de l'histoire. Avoir la foi, c'est développer au milieu de nos contemporains une vision de la vie ouverte sur Dieu, ouverte sur sa parole, ouverte sur ses promesses, et ça fait une différence monumentale. Cette différence, il nous faut l'assumer, il nous faut la vivre, il nous faut bien la vivre en sachant ce qui la fonde, en sachant qui est celui qui la fonde. Il est important pour nous de ne pas redouter cette différence, mais au contraire, de nous rappeler quelle est la richesse de fonder sur un Dieu qui s'adresse à nous, sur un Dieu qui nous insère dans son projet. Au lendemain de la chute de Rome, en 410 après Jésus-Christ, saint Augustin a écrit un ouvrage qui s'intitule « La cité de Dieu ». Et il fait un contraste aussi entre ce qui est la cité de la terre, dont Rome était une figure, et la cité de Dieu, qui est la réalité du royaume de Dieu, ce que Dieu construit. En quelque sorte, Babel face à Abraham. Et voilà ce qu'écrit saint Augustin, je trouve que c'est une belle manière de montrer aussi ce contraste que nous trouvons dans notre texte. Il dit « Deux amours ont bâti deux cités. L'amour de soi jusqu'au mépris de Dieu a bâti la cité de la terre. L'amour de Dieu jusqu'au mépris de soi a constitué la cité de Dieu. L'une se glorifie en toi, l'autre dans le Seigneur. L'une demande sa gloire aux hommes, l'autre met sa gloire la plus chère en Dieu, témoin de sa conscience. L'une, dans l'orgueil de sa gloire, marche la tête haute. L'autre dit à Dieu, « Tu es ma gloire, tu élèves ma tête. » Celle-là, dans ses victoires sur les autres nations, se laisse dominer par sa passion de dominer. Celle-ci représente des citoyens unis dans la charité, serviteurs mutuels les uns des autres. Celle-là, avec ses princes, aime sa propre force. Celle-ci dit à son Dieu, « Seigneur, mon unique force, je t'aimerai. » C'est un texte quasi impérissable, un texte qui rappelle aussi cette orientation foncièrement différente qu'implique la foi, avec son ouverture à Dieu, avec son attente avec Dieu, avec ce vis-à-vis qui permet d'autres attitudes, d'autres ressources, d'autres recherches de fondement. C'est Dieu qui donne son fondement à son peuple. Donc un contraste entre cet appel d'Abraham et ce projet de Dieu qui se met en œuvre de manière si petite, mais si pertinente, et la façon dont les hommes cherchent eux-mêmes à s'affirmer en dehors de Dieu. Vivons aussi notre appel dans la fidélité et dans la confiance en Dieu. Mais l'appel d'Abraham, c'est aussi une immense promesse avec un tout petit commencement. Et c'est un autre contraste que j'aimerais souligner ici. On part d'un homme pour aller jusqu'à toutes les familles de la terre. On parle d'une grande nation, mais d'une grande nation à quelqu'un qui est seul, sans enfant, et depuis longtemps déjà sans enfant. La force n'est pas vraiment du côté d'Abraham. En voyant cette caravane qui prend la route ce jour-là, qui aurait pensé qu'il y aurait là une semence de vie et de bénédiction pour l'humanité entière? Un tout petit commencement que nous voyons là. Et voilà quelque chose d'un peu compliqué à gérer pour nous, ce rapport entre ce qui est tout petit et les grandes perspectives. L'appel d'Abraham qui commence tout petit nous dit, je crois, ne méprisez jamais les petites choses. Ne méprisez pas ces petites choses qui semblent insignifiantes et dont pourtant Dieu peut et veut se servir pour apporter une bénédiction. Et cela, il nous faut l'entendre. Pour ne jamais dévaluer une petite chose à mettre en œuvre ou un petit pas à accomplir si Dieu nous le demande dans sa parole. Il est important pour nous d'accepter que Dieu puisse travailler par des petites choses comme était ce petit pas d'Abraham au début. Mais en même temps, souligner simplement la petitesse du départ d'Abraham pourrait nous conduire à ne valoriser que ce qui est petit et peut-être à nous faire manquer d'ambition ou de perspective. Or Dieu dit à Abraham, « Je vais faire de toi une grande nation. Je rendrai ton nom grand. » Et c'est une bénédiction, quelque chose que Dieu veut donner à Abraham et faire pour lui. Comment nous situer au milieu de tout cela, des petites choses à valoriser, et quand même ne pas nous limiter à ce qui est petit, voire aussi grand, voire aussi large. Dans la vie quotidienne, la plupart de nos actes sont modestes. Ils sont faits de petites fidélités, avec des moyens limités. Et il nous faut vraiment assumer cela, ne jamais nous laisser arrêter par cela, car Dieu peut se servir de telles choses pour bénir. Dieu peut se servir de telles choses pour faire du bien. Dieu peut se servir de telles choses, si petites, si modestes, pour accomplir ses projets. Et avoir la foi en Dieu, c'est compter sur ce que Dieu peut faire, sur ce que Dieu fait, par-delà nos limites à nous. Comme Abraham a dû compter sur ce que Dieu allait faire, par-delà la petitesse de la situation dans laquelle il se trouvait, la petitesse des pas qu'il faisait. Par contre, Dieu a donné à Abraham la perspective d'un grand projet qui était celui de Dieu et dans lequel Dieu insérait Abraham. Un peu plus tard même, Dieu invitera Abraham, chaque fois qu'il verrait un ciel étoilé, à bien le regarder et à se dire, voilà la dimension de ce que Dieu veut faire. Toutes ces étoiles, ça nous dit quelque chose de l'ampleur du projet de Dieu dans lequel je suis inséré. Voilà ce dans quoi Dieu m'a embarqué. Dieu voulait qu'Abraham ait aussi ses perspectives larges. Et il voulait que ça donne sens à la vie d'Abraham, que ça lui donne de l'espérance, de la joie, que cela mette du vent dans ses voiles. Et nous aussi, il nous faut garder en vue le grand projet de Dieu. Dieu veut qu'un grand nombre de personnes soient sauvées. Dieu veut que son royaume devienne comme un grand arbre, nous l'avons lu tout à l'heure. Il veut aussi, lorsqu'il fera toute chose nouvelle, que la connaissance de la gloire de Dieu remplisse la terre. Et remplisse la terre tout comme l'eau couvre le fond des mers. C'est une parole du prophète Habacuc au chapitre 2, verset 14. C'est son projet, son grand projet. Nos actes s'inscrivent dans ce que Dieu fait, dans ce qu'il construit, dans ce qu'il réalise. Et il nous faut garder cela en vue pour que cela nous donne de la persévérance dans les petites choses, mais aussi pour que cela nous aide à en oser peut-être de plus grandes. Dieu voulait qu'Abraham garde devant les yeux les horizons larges de ce qu'il avait fait, de ce qu'il allait faire. Il veut que nous aussi, nous ayons une vision large de ce qu'il fera, de son projet pour aujourd'hui, pour le monde, de son projet lorsqu'il rétablira toute chose nouvelle lorsque Jésus reviendra. Le prophète Ésaïe, des siècles plus tard, invite aussi à un regard qui compare les débuts et ce qui s'est réalisé. Il revient aussi à la promesse faite à Abraham lorsqu'il était seul, et il invite ceux qui poursuivent la justice, comme il dit, à considérer le chemin parcouru depuis Abraham jusqu'à eux. Ésaïe 51, versets 1 à 3. « Écoutez-moi, dit le prophète, vous qui poursuivez la justice, vous qui cherchez l'Éternel, portez les regards sur le rocher d'où vous avez été taillé, sur le creux de la fosse d'où vous avez été tiré. Portez les regards sur Abraham, votre père, et sur Sarah qui vous a enfanté. » Car il était seul quand je l'ai appelé, et je l'ai béni et multiplié. Ésaïe, ici, invite à voir ce que Dieu a déjà fait, depuis ce fameux jour de l'appel d'Abraham, où il était encore seul, jusqu'au jour où il se trouve là, à leur période. Et ça doit être un encouragement pour aujourd'hui de voir ce que Dieu a déjà fait, un encouragement pour ceux qui poursuivent la justice, ceux qui cherchent le Seigneur. Regardez ce que Dieu a déjà fait. Regardez l'œuvre que Dieu est en train de faire dans l'histoire. Et des siècles après Jésus-Christ, nous avons encore plus de recul qu'Ésaïe en son temps. La postérité spirituelle d'Abraham, elle est innombrable. Si nous regardons aujourd'hui, si nous regardons l'histoire de tous ces siècles passés, et la somme de bénédictions reçues de la part de Dieu est encore plus immense, car chaque bénéficiaire en a reçu des tonnes, et ce n'est pas fini. Il nous faut parfois prendre le temps aussi de mesurer tout ce que Dieu a déjà fait en accord avec sa promesse à Abraham. Et ceci non pas pour faire de nous des doux rêveurs, mais Ésaïe dit, écoutez, vous qui poursuivez la justice, c'est ceux qui poursuivent le bien, ceux qui cherchent le Seigneur, ceux qui cherchent des encouragements, doivent aussi se puiser leur force dans l'œuvre que Dieu a déjà accomplie et regarder la fidélité à ses promesses jusqu'ici. Oui, jusqu'ici, Dieu a agi. C'est ce qui doit nous permettre, nous aussi, de continuer, de prendre notre part dans l'action, de prendre notre part pour nous aussi poursuivre la justice et chercher le Seigneur. Le Seigneur veut donc bénir toutes les nations par Abraham et par sa postérité. Mais nous assistons ici à quelque chose quand même qui est assez étonnant. Pour bénir l'ensemble de l'humanité, Dieu choisit le canal particulier d'un homme, puis d'un peuple, en qui toutes les familles de la terre doivent être bénies. Et cette manière de faire de Dieu mérite qu'on s'y arrête un peu. Choisir un homme, choisir un peuple à partir duquel toutes les familles de la terre seront bénies. Cette manière de faire suscite l'étonnement et parfois même la raillerie. Pourquoi passer par une voie aussi étroite pour apporter la bénédiction à tous ? C'est quand même ce que Dieu dit ici de son plan, de son projet. Les sages de l'Inde, par exemple, les sages de l'Inde qui riches d'une tradition spirituelle tellement longue, tellement millénaire, ils ont du mal à comprendre et à accepter qu'ils aient besoin de recevoir une bénédiction par un canal particulier qui serait le canal d'Abraham et de sa postérité. Pourquoi Dieu ne passe-t-il pas directement par nous ? Pourquoi Dieu dit-on que Dieu est accessible là et non pas à chacun ? Ils ne sont pas les seuls. Jean-Jacques Rousseau, par exemple, disait qu'il ne comprenait pas pourquoi, si Dieu avait quelque chose à dire à Jean-Jacques Rousseau, il ne s'adresse pas à lui directement, plutôt que de l'obliger de passer par Abraham, par Moïse et par d'autres. Comment éclairer une telle question ? Cette question du canal que Dieu choisit ici pour bénir toutes les nations de la terre. La clé, me semble-t-il, c'est la nature de la bénédiction dont Dieu parle. Il n'est pas question ici, quand Dieu dit « je bénirai toutes les familles de la terre en toi », il n'est pas question ici des bienfaits du Dieu créateur. Ces bienfaits-là, Dieu les donne à tous, largement, sans passer par un canal particulier. Il fait lever son soleil sur les justes et sur les méchants. Il donne la vie à tous, il donne à tous le mouvement, la vie et l'être, à ceux qui reconnaissent Dieu, à ceux qui ne le reconnaissent pas. Il y a là donc une action large, le Dieu créateur se manifeste dans sa bonté, dans son action de manière très large. Mais la bénédiction dont Dieu parle à Abraham, elle, va plus loin. C'est le moyen d'une relation restaurée entre le Créateur et sa créature. Entre le Créateur et sa créature qui s'est éloignée de lui. Car l'humanité, il faut le rappeler, s'est éloignée de Dieu. A souvent tourné le dos à son Créateur, tout comme les gens de Babel, tout comme chacun de ceux qui cherchent par eux-mêmes à trouver leurs ressources de la vie. Et que pour que Dieu vraiment restaure la relation entre le Créateur et sa créature, ça suppose aussi que Dieu se fasse vraiment connaître lui-même. Et c'est là ce que Dieu choisit de faire avec Abraham et sa lignée. Et Dieu a choisi de le faire au travers d'une lignée, au travers d'une histoire. Dieu n'a pas choisi pour se faire connaître de faire du saupoudrage. Une petite bribe de connaissance ici, une petite bribe là, un petit quelque chose ici, une petite lumière là, etc. Ce n'est pas comme ça que Dieu a voulu agir. Dieu a choisi de se faire connaître dans une histoire suivie, dans une histoire consistante. Dans une histoire dans laquelle il s'engage avec les hommes et pour les hommes. Et dans cette histoire, Dieu choisit à la fois de se révéler et de s'impliquer. Quand il dit « toutes les nations seront bénies en toi », c'est une révélation de Dieu que Dieu va donner de lui-même dans l'histoire, mais c'est aussi une implication du Seigneur en même temps qu'il se fait connaître. Il se fait connaître et il se donne tout ensemble. Et il laisse ainsi une trace forte de lui-même et une trace forte de son amour. Et on le découvre comme un Dieu qui accompagne, comme un Dieu qui fait du bien, comme un Dieu qui intervient, qui soutient, qui reprend, qui relève, qui pardonne, qui persévère, qui n'abandonne pas. L'histoire donne toutes ces circonstances, toutes ces facettes où Dieu montre ses aspects de ce qu'il est et surtout ses aspects de son engagement. Dans une histoire suivie, comme celle d'Abraham, de sa génération, de ceux qui viennent après lui, on découvre vraiment, au travers de toutes circonstances, en toutes sortes de situations, qui est Dieu, ce qu'il fait, ce qu'il apporte, l'intensité de son implication. Et c'est une magnifique bénédiction que cette richesse de Dieu, cette beauté d'un Dieu qui se fait connaître, mais qui s'engage en même temps au fil d'une histoire et envers des gens. Mais cette bénédiction sous forme d'engagement de Dieu va plus loin encore, car l'humanité a besoin aussi et suprêmement d'un moyen de salut, d'une base de réconciliation et de pardon. Car comme je l'ai dit, l'humanité en elle-même est désormais une humanité condamnée à cause de sa révolte, de son éloignement de Dieu. Et c'est cette humanité-là que Dieu veut bénir, justement. Et l'engagement de Dieu dans l'histoire des hommes ira jusqu'au point où en Jésus, le Seigneur prendra sur lui-même la condamnation de notre révolte humaine pour nous en libérer. La bénédiction suprême d'Abraham se situe là, dans cet événement unique, nécessaire au salut, et pleinement accompli une fois pour toutes. Et toutes les nations seront bénies par cet acte inouï qu'est la croix de Jésus-Christ, mort pour nos péchés, pour nos révoltes, et ressuscité pour nous donner une vie nouvelle et nous réconcilier avec Dieu. Si tout ce qu'il fallait aux hommes était une simple question de connaissance un peu plus éclairée, oui, alors pourquoi ? Pourquoi pas apporter cette lumière un petit peu ici, un petit peu là, un peu partout, sans passer par le canal d'une histoire. Mais la croix de Jésus-Christ, elle, cet événement fondateur, elle ne se saupoudre pas par petits bouts. Un peu partout, c'est un acte unique qui a lieu dans l'histoire, en un temps, en un lieu qui est décisif. Cet acte unique a eu lieu dans la descendance d'Abraham et pas ailleurs. Il est intervenu après bien des générations pour bien montrer sa force et sa nature. Jésus, c'est le couronnement de tout un engagement de Dieu, le sommet inouï d'un amour déjà donné, déjà manifesté mille fois envers et contre tout. Ça ne veut pas dire qu'il a fallu attendre Jésus-Christ pour qu'enfin Dieu puisse pardonner et sauver. Avant Jésus-Christ, Dieu a pu pardonner et sauver en sachant ce qu'il allait faire, ce qu'il allait donner en son Fils. Mais il fallait que l'amour de Dieu se manifeste ainsi. Dieu a voulu que son amour se manifeste dans une fidélité, dans un engagement pour le salut de notre humanité et pour nous libérer de toute condamnation. Et c'est vraiment cet amour-là qui rejaillit comme une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Et c'est pourquoi Dieu a choisi ce canal-là, parce qu'il est un Dieu qui se fait connaître, oui, mais qui se fait connaître dans son engagement pour nous, dans son amour pour nous, dans son implication entière, totale, jusqu'au bout, ce qu'il a manifesté en Jésus. Je te bénirai. J'ai toutes les nations, toutes les familles de la terre seront bénies en toi. C'est touchant de penser que quand Dieu dit à Abraham « Je te bénirai », en fait, il y a déjà son engagement à lui en Jésus-Christ qui est impliqué. Et au moment où Dieu dit à Abraham « Je te bénirai », il sait que ça voudra dire que le Père donnera son Fils, son unique, pour apporter cette bénédiction. L'engagement de Dieu est là présent au moment même où le Seigneur appelle Abraham à le suivre. Comment Dieu se révèle-t-il dans tout ce processus ? Il se révèle, nous l'avons dit, comme un Dieu qui bénit. Et c'est le dernier point que j'aimerais relever. Le mot « bénir » est le mot qui revient le plus souvent dans cet appel d'Abraham. Il traduit vraiment l'intention profonde de Dieu. Dieu appelle pour bénir. « Je te bénirai. Tu seras source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront », dit le Seigneur. Le Seigneur demande à Abraham de quitter ses attaches, mais c'est parce qu'il a en vue un bien supérieur qu'il veut lui donner. Il sait tout le bien qu'il veut pour lui. Dieu lance un projet nouveau parce qu'il veut bénir l'humanité, faire du bien à cette humanité qui pourtant si souvent cherche à se définir loin de lui, sans lui et parfois contre lui. cette humanité qui lui manifeste tant d'ingratitude, Dieu répond à ce mal par le bien. Il choisit de bénir. Je veux te bénir et au travers de toi, bénir toutes les nations de la terre. Et Dieu s'engage dans l'histoire pour réaliser cela. Abraham reçoit donc le message de l'engagement très personnel de Dieu en sa faveur. Je te bénirai. Mais cet engagement dit aussi une sorte d'attachement, une protection et une appartenance d'Abraham. Le Seigneur dit, je bénirai qui te bénira, je maudirai qui te maudira. Ça veut dire, tu m'appartiens, je veille sur toi. Je ne veux pas qu'on te fasse de mal, je suis ton partenaire, je suis ton défenseur. Et c'est ainsi aussi que Dieu nous considère, un peu comme la prunelle de ses yeux. C'est ça ce que dit Dieu à Abraham quand il dit, je bénirai qui te bénira, je maudirai qui te maudira. Le fondement de la bénédiction de Dieu, c'est son attachement réel. Et nous qui devenons fils de Dieu par la foi en Jésus, qui devenons fils d'Abraham par la foi en Jésus, nous le savons encore plus fort. Il n'a pas épargné son propre fils pour nous bénir en Jésus. Il s'attache à nous personnellement. Il nous aime en Jésus d'un amour éternel. Je te bénirai. Un engagement très personnel, un attachement de Dieu en faveur de tous les siens. Et nous pouvons aussi recevoir cette parole pour nous-mêmes si nous marchons avec Dieu. Mais Abraham, le béni, est appelé aussi à devenir bénédiction. Et c'est l'autre volet de cette promesse et de ce projet de Dieu. Ce qu'il a reçu n'est pas simplement pour lui, mais cela déborde et cela rejaillit sur d'autres. Et le projet de Dieu, c'est oui de bénir ceux qui s'attachent à lui, ceux auxquels il s'attache, mais c'est aussi une solidarité nouvelle au sein de l'humanité, où celui qui a goûté que le Seigneur est bon partage ce qu'il a reçu et fait du bien riche de ce qu'il a reçu. C'est ça ce qui veut dire « je te bénirai » soit aussi une source de bénédiction. Et nous devons avoir à cœur d'être nous aussi de ces maillons, de ces bienfaits partagés qui rejaillissent de l'un à l'autre et qui créent ainsi des liens entre les hommes. Je te bénis, sois en bénédiction. Tu reçois de moi, construis avec cela quelque chose, avec d'autres et pour d'autres. Et je propose que nous gardions cette pensée. Comment puis-je d'une manière ou d'une autre, transformer en relation les bienfaits que je reçois de Dieu. Comment faire que cette bénédiction que je sais avoir reçue et que je reçois jour après jour par la relation avec Dieu ne soit pas simplement un gouffre où elle se perd pour moi, où elle se perd en moi, mais qu'elle soit aussi un rafraîchissement pour d'autres. Comment aussi nous qui avons été bénis les uns et les autres, qui sommes bénis régulièrement par le Seigneur, comment mettre en commun à plusieurs ce que nous avons reçu pour devenir ensemble source de bienfaits. La bénédiction d'Abraham ne s'arrête pas à chacun de ses bénéficiaires. Mais Dieu voudrait que la bénédiction que chacun reçoit rebondisse à partir de là pour aller vers d'autres. C'est la vivacité de la promesse d'Abraham, c'est un aspect de sa richesse. Et nous voyons dans notre monde tellement de logiques du mal qui sont à l'œuvre. Les logiques de mal sont tellement présentes, tellement visibles dans le monde. Il y a besoin qu'il y ait aussi des logiques de bienfait, des logiques de générosité. Ceux qui ont reçu peuvent, d'une manière ou d'une autre, entrer dans une logique de partage. Demandons donc à Dieu la grâce d'être chacun pour notre part des participants actifs au dynamisme de cette bénédiction d'Abraham qui a été manifestée, nous le savons, de manière si riche en Jésus. Je te bénirai, toutes les nations de la terre seront bénies en toi, je te bénirai, sois aussi source de bénédiction. Que nous puissions vivre cela, l'expérimenter, jour après jour. Amen.